VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 16 septembre 2018. Abdourahmane Dia et Anne Alberson depuis Washington. On démarre par les titres.
En République démocratique du Congo, l'opposition prévient qu'elle n'acceptera pas une parodie d'élection. Elle annonce un grand meeting pour le 29 septembre.
L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé un accord pour consolider la paix quelques semaines après le rétablissement de leurs relations diplomatiques.
Ici, aux États-Unis, au moins 15 personnes ont perdu la vie après le passage de l'ouragan Florence dans le sud-est du pays qui reste menacé.
Et en partie magazine, notre correspondant à Conakry nous fera découvrir les talents d'une artiste qui valorise des objets recyclés.
L'étape du lavage des pneus est primordiale puisqu'on ne peut pas faire des coupes, on ne peut pas faire du recyclage mais sans laver les pneus.
Et ne ratez pas l'économie et les sports.
Mais tout de suite, le journal.
En République démocratique du Congo, 7 leaders de l'opposition annoncent un grand rassemblement le 29 septembre à Kinshasa pour exiger des élections crédibles. Candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre pour la plupart, ses opposants l'ont fait savoir à travers un communiqué qui dénonce l'instrumentalisation par le pouvoir de la Commission électorale nationale indépendante. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain, indique le communiqué avant de poursuivre. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux et ne s'inscrit pas dans la logique du boycott des élections. Par contre, poursuit le communiqué, l'opposition politique ne permettra jamais la tenue d'une parodie d'élection. Ce communiqué signé par 7 leaders de l'opposition, Vital Kamerhe de l'UNC, Martin Fayulu de la Dynamique de l'Opposition, Félix Tshisekedi de l'UDPS Tshisekedi, Adolphe Muzito de l'UREP, Moïse Katumbi d'Ensemble pour le Changement, Jean-Pierre Bemba du MLC et Freddy Matungulu de Congo Nabisso annoncent donc l'organisation d'un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre courant pour appeler la population à adhérer à cette cause. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Par ailleurs, l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, un des signataires de ce communiqué de l'opposition, se dit prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition. Jean-Pierre Bemba est exclu de l'élection présidentielle en RDC. Sa déclaration intervient alors que la Cour pénale internationale doit se prononcer aujourd'hui sur sa sentence. Il a été condamné par cette cour pour subornation de témoins.
En RDC toujours, un chef milicien qui dirigeait une coalition de plusieurs groupes armés au Kasaï, dans le centre de la RDC, s'est rendu. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités locales. Le chef Ndai Kalonga Nsabanga était actif dans la région de Kananga. Son nom avait été cité dans l'assassinat d'au moins 4 membres d'une même famille en mai. C'est grâce à la négociation qu'il a accepté de se rendre, a déclaré le vice-gouverneur du Kasaï central.
L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé hier en Arabie Saoudite un accord consolidant leur réconciliation et renforçant la sécurité et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Les détails avec Nicolas Pinot.
Les détails de ce nouvel accord signé dans la ville de Jeddah n'ont pas été divulgués, mais des sources proches du gouvernement saoudien affirment qu'il contribuera à consolider les relations entre les deux pays. Présidée par le roi Salman d'Arabie Saoudite, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de son fils, le prince héritier Mohamed Ben Salman, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'accord de paix signé ce jour entre l'Éthiopie et l'Érythrée à Jeddah est un événement historique qui va contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région. S'est félicité sur Twitter le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jouber. Le président érythréen, Isaias Afewerki, et le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avaient officiellement mis fin le 9 juillet dernier à ce conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000, signalant un spectaculaire rapprochement opéré sous l'impulsion de M. Abiy. Le rapprochement s'est traduit notamment par la réouverture des ambassades à Asmara et Addis Abeba et le rétablissement des liaisons aériennes, des relations commerciales et des lignes téléphoniques entre les deux pays.
Le vice-président équato-guinéen Teodorin Obiang a passé des moments difficiles à son arrivée dans un aéroport près de São Paulo au Brésil. La douane brésilienne a saisi plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président de la Guinée équatoriale.
Au Zimbabwe, le dernier bilan de l'épidémie de choléra rendu public hier fait état de 28 morts. Le ministre de la Santé a aussi annoncé l'utilisation de nouveaux antibiotiques contre cette maladie, celle-ci étant résistante à des antibiotiques plus anciens. L'épidémie s'est déclarée en septembre et le gouvernement a décrété un état d'urgence sanitaire dans la capitale Harare après la découverte de 3000 cas.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, au moins 15 personnes ont perdu la vie après le passage de l'ouragan Florence dans une partie de la côte Est. Les États de Caroline du Nord et de Caroline du Sud sont les plus touchés et les autorités font face à la montée des eaux et préviennent que le pire reste à venir. Le point avec Jean-Roger Bion.
La tempête Florence a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche, mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi sur les deux États du Sud-Est restent un danger pour les habitants. Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, Brock Long, a indiqué que le centre et l'ouest de la Caroline du Nord ainsi que la Virginie n'en avaient pas fini avec les intempéries. « Nous en avons encore pour plusieurs jours », a-t-il dit sur CNN. « Nous nous attendons à de gros dégâts », a-t-il lancé, précisant que des barrages risquaient d'être menacés à cause de la montée des eaux. Après avoir frappé la côte atlantique, Florence s'est enfoncée dans les terres où la pluie a fait grossir les cours d'eau, provoquant des inondations. Les sauveteurs ont secouru plus de 900 habitants des inondations, alors qu'environ 700 000 foyers restaient sans électricité en Caroline du Nord. Le président américain Donald Trump a salué sur Twitter les sauveteurs et les forces de l'ordre qui travaillent vraiment dur pour aider la population. Dans les villes frappées par la tempête, plusieurs cas de pillage ont été signalés et la police de Wilmington, en Caroline du Nord, a annoncé avoir arrêté 5 personnes prises en train de vandaliser un supermarché.
Un grand nettoyage était en cours ce lundi matin pour retirer arbres et débris des rues de Hong Kong au lendemain du passage du typhon Mangkhut qui a aussi fait des dizaines de morts aux Philippines. Les sauveteurs ont annoncé que le bilan était passé dans la nuit de dimanche à lundi à 65 morts après avoir retiré de nouvelles dépouilles du site d'un énorme glissement de terrain dans le nord des Philippines. L'archipel d'Asie du Sud-Est essuie régulièrement de violents typhons.
Premières élections municipales en Syrie depuis 2011. Le régime de Bachar al-Assad a organisé hier ce scrutin dans la majeure partie du territoire syrien qu'il contrôle désormais à la faveur de succès militaires enregistrés au cours des dernières années de guerre. Retrouvons à nouveau Nicolas Pineau.
Oui, les Syriens ont pu voter dans les régions tenues par le régime, soit près de deux tiers du pays. En raison du conflit, aucun recensement de la population n'a pu être mené ces dernières années et quasiment toutes les régions ont connu des combats au coût humain très lourd. Plus de 6500 bureaux de vote ont ouvert et les médias étatiques n'ont pas donné le taux de participation pour ce scrutin où plus de 40 000 candidats étaient en lice. La majorité de ces candidats sont affiliés au parti Baas du président Assad. Il s'agit du premier scrutin municipal organisé depuis décembre 2011 au début de la guerre qui a ravagé le pays depuis plus de 7 ans et entraîné la mort de plus de 360 000 personnes et contraint à l'exil des milliers d'autres. Dans les régions reconquises par le régime, au terme d'offensives dévastatrices, notamment dans la ville de Deir ez-Zor, dans l'Est ou encore l'ex-bastion rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, les électeurs n'avaient qu'un seul mot à la bouche, la reconstruction.
Un juriste franco-américain arrêté par les forces de l'ordre israéliennes lors d'une manifestation contre la démolition d'un village bédouin en Cisjordanie occupée va être expulsé d'Israël. Frank Romano, professeur de droit, a été arrêté vendredi après des échauffourées entre des militants pro-palestiniens et des gardes frontières israéliens près d'un village bédouin à l'est de Jérusalem.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
présent, l'actualité économique dans la Minute Éco, présentée par Gaby Dorcy.
Envol Immobilier, une société sénégalaise, vient de gagner le contrat de construction de l'université de San Pedro en Côte d'Ivoire. Le coût du projet est estimé à 95 milliards de francs CFA. Selon le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la société devra s'activer afin de livrer dans les délais le nouveau joyau dont l'ouverture est prévue pour octobre 2020. La future université devrait accueillir à terme quelque 20 000 étudiants dans les filières de construction navale, d'agriculture et de tourisme. La Royal Air Maroc a annoncé le lancement le 2 avril 2019 de la ligne Casablanca-Athènes. Cette nouvelle liaison, qui sera disponible trois fois par semaine à bord d'un Boeing 737-700, renforcera les relations économiques et les échanges non seulement entre le Maroc et la Grèce, mais aussi avec le continent africain qui bénéficiera du hub de Casablanca pour atteindre la Grèce, bien sûr, et des pays d'Europe de l'Est. Toujours dans le domaine de l'aviation, Kenya Airways reviendra le mois prochain au Gabon à la suite en partie de la certification de l'aéroport international Leomba de Libreville le 30 août dernier. La compagnie kenyane a en effet annoncé le 13 septembre, à l'issue d'une réunion à Libreville, son retour sur la plateforme aéroportuaire de la capitale gabonaise après l'avoir quitté en 2014.
On passe maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour. Et tout de suite, on démarre par le football avec les quarts de finale aller de la Coupe de la CAF et l'USM Alger a été surpris par Al Masry.
Oui, en déplacement en Égypte, les Rouges et Noirs d'Alger se sont inclinés 1-0 contre Al Masry. L'unique but de la rencontre a été marqué par le Palestinien Wadi. À Kinshasa, la SV Club a renversé Berkane. Les Dauphins Noirs ont pris une option sur la qualification en battant la Renaissance Berkane 3-1. Un résultat qui met en confiance l'équipe de Florent Ibengué avant le match retour.
Belle opération réalisée par le Raja de Casablanca à Brazzaville.
En déplacement au Congo, l'Aigle Vert s'est imposé sur la marque de 2-1 contre le Kara de Brazzaville. Par contre, pas de vainqueur entre Rayon Sport et Enimba. Opposé au Rwanda, les deux clubs se sont séparés sur un score nul et vierge. Ce résultat fait plutôt les affaires des Nigérians qui auront l'avantage de recevoir au retour.
Quart de finale aller également en Ligue des Champions. Al Ahly et TP Mazembe gardent leur chance de qualification, tout comme l'entente de Sétif qui a dominé le tenant du titre, le WAC.
Les Algériens ont été réalistes face au Wydad de Casablanca tenant du titre. L'entente de Sétif l'a emporté grâce à un but du Sénégalais Isla Diomandé à la 16e minute de jeu. Un but d'avance très important avant un match retour assez difficile pour les deux clubs à Casablanca. À Conakry, Oroya n'a pas réussi à marquer contre les Égyptiens d'Al Ahly, score final 0-0. Un résultat qui n'arrange pas les Guinéens qui sont condamnés à l'exploit au match retour, tout comme les Angolais de Primeiro do Agosto accrochés à domicile par les Congolais du TP Mazembe. Tout reste à faire au match retour, ce sera à Lubumbashi dimanche prochain. En revanche, l'Espérant de Tunis a pris une option dans le derby tunisien grâce à sa victoire de 2-1 face à l'Étoile du Sahel. Cet avantage reste fragile, les deux équipes s'affronteront à nouveau vendredi prochain au stade olympique de Sousse.
Éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans, on connaît les 8 pays qualifiés pour la phase finale.
Après la Tanzanie, pays hôte, l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda et le Maroc, le Nigeria, la Guinée et le Sénégal ont aussi validé leur billet. Pour y parvenir, les Nigériens ont écarté le Ghana en finale de la zone UEFA B au tir au but 3-1-1-1 après le temps réglementaire. La Guinée-Conakry a fait de même dans la zone UEFA A face au Mali 5-4, 2 buts partout après les 120 minutes de jeu. Les Aiglonnés ne défendront pas le titre en Tanzanie. Et puis, le Sénégal a cartonné 6-0 le Cap Vert dans l'autre affiche des demi-finales dans cette zone.
Football toujours avec la Supercoupe du Togo qui a eu lieu hier au stade municipal de Lomé.
Une rencontre remportée par Koroki de Tchamba, le champion de la saison écoulée 2-0, doublé de Salami Assouma devant Gomido de Kalimé, vainqueur de la Coupe nationale. Ce match annonce donc la reprise de la nouvelle saison au Togo.
Athlétisme à présent et Eliud Kipchoge remporte le marathon de Berlin.
Avec un temps de 2h01 minute 39 secondes, le Kenya gars de 33 ans devient le premier homme à courir sous les 2h02. Il relègue aux oubliettes le record de 2h02:57 établi par son compatriote Denis Kimeto sur le même parcours en 2014.
Basketball pour terminer et on connaît les deux premiers qualifiés pour le mondial 2019.
Et c'est plutôt logique. Il s'agit de la Tunisie et du Nigeria. Les deux équipes ont obtenu leur qualification devant leur public à l'issue d'un tournoi qui a eu lieu à Rades et à Lagos. Il faut préciser que 5 équipes vont représenter le continent africain, les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième. Et puis, une note de cyclisme pour terminer avec l'épilogue du Tour de Côte d'Ivoire qui a vu Issiaka Cissé sorti vainqueur. L'édition 2018 de cette course a pris fin par le Grand Prix cycliste d'Abidjan remporté par le Burkinabé Abdoul Aziz Nikiema.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Nous passons maintenant au dossier du jour. Et on démarre par la République du Congo, où les populations demandent aux autorités de réorienter la coopération avec la Chine vers les priorités du pays, notamment l'industrialisation. Ces dernières années, en effet, la Chine s'est illustrée dans la construction d'infrastructures que les Congolais estiment assez. Ils souhaitent une coopération plus diversifiée, créatrice d'emplois. On fait le point avec Arsène Séverin, le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville.
À l'issue du Forum Chine-Afrique, le Congo a pu obtenir une douzaine d'accords dans les infrastructures et la formation, puis arracher un don de 26 milliards de francs CFA. Pas assez gros à comparer avec la Côte d'Ivoire qui a signé 18 accords pour 1900 milliards ou le Sénégal 10 accords pour 500 milliards. Mais le Congo garde sous le coude son accord de partenariat stratégique avec la Chine conclu en 2006. À Brazzaville, les populations estiment que ce partenariat reste porteur de beaucoup d'espoir. L'ancien ministre Alain Akwala, qui a beaucoup travaillé avec les Chinois dans le cadre des zones économiques spéciales, affirme que la Chine pourrait aider le Congo à diversifier son économie.
La Chine, jusque-là, a financé la construction de nos infrastructures pour pouvoir justement permettre l'émergence d'une économie. Donc, la Chine tire déjà un profit. Mais du côté du Congo, il va falloir que nous réajustons les choses. Il est clair que, fondamentalement, la Chine est intéressée par les matières premières que nous avons. Et le Congo, de par sa position géoéconomique et géostratégique, disposant du seul port en eau profonde, eh bien, pourra devenir, si vous voulez, cette porte d'entrée et de sortie bien de toute l'Afrique centrale.
Ces dernières années, en effet, la Chine s'est investie à construire des infrastructures au Congo. L'analyste économique Obaminga Kosso estime qu'il est temps de repenser ce partenariat.
On ne peut pas dire qu'on est un État et près de 60 ans après l'indépendance, pour construire une bibliothèque, on a besoin de Chinois. Donc la perspective, il faut la changer. Quels sont réellement nos besoins? Il faut que nous évitions de nous retrouver dans une situation où chaque Congolais spécule en disant, parce que c'est ça, les Congolais sont allés en Chine chercher de l'argent. Ce n'est pas crédible pour le Congo. Donc la perspective a changé, c'est en changeant le cahier de charge, mais pression en disant voici ce que nous voulons. Sinon, on va recommencer et je crains que dans 40 ans, ce soit les mêmes débats.
Mais le Congo traîne une lourde dette vis-à-vis de la Chine, ce qui fait dire à une large partie de la population que ce partenariat n'a finalement profité qu'aux Chinois. L'économiste Hassène Boussir revient sur ce lourd endettement.
Vous allez vous rendre compte que dans ce partenariat, la Chine profite pour avoir les matières premières, mais le Congo a eu quoi en contrepartie? La dette. Est-ce qu'on peut dire gagnant-gagnant si l'autre a eu la matière première, tu as eu la dette? On sait bien que déjà, dans le cadre toujours de cet accord stratégique, le Congo commercialise son brut directement à la Chine et dans le compte Exim Bank, on était à 3142 milliards et quelques qui ont été gagés à Exim Bank, c'est-à-dire que le pétrole est vendu, mais l'argent ne revient pas au Congo. Et donc, on ne va pas continuer comme ça parce qu'on asphyxie le trésor public congolais. Et ça, le pays n'a pas une marge de manœuvre pour mieux investir dans le cadre des problèmes sociaux. Donc, il faut revoir ce partenariat de telle sorte qu'il soit réellement gagnant-gagnant.
Le Congo et la Chine coopèrent depuis 1964 et plusieurs bâtiments publics, dont les stades et les barrages hydroélectriques, se sont élevés grâce à ce lien. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Mali, l'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle, donnant le sortant Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur. D'ailleurs, le gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Le président a demandé à son équipe, selon le communiqué officiel, de poursuivre avec célérité l'application de l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion. On fait le point à Bamako avec Kassim Traoré.
Telle une rentrée scolaire, un nouveau ministre était au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres du second mandat du président Ibeka. Occasion pour le chef de l'État de dévoiler sa feuille de route. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Premièrement, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxièmement, la promotion d'une croissance inclusive. Troisièmement, le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Quatrièmement, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Enfin, notre présence au monde, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Je vous instruis à poursuivre avec célérité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ainsi que est institué, avec comme seul souci la promotion du développement global de notre cher Mali.
L'opposition malienne dit avoir mobilisé 25 000 personnes pour une marche de contestation de la fraude électorale. Thieblaine Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé.
Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu. Son mandat est fini le 3 septembre 2018. Depuis le 4 septembre à 01, il est un président de fait. Il n'a plus la légitimité des urnes. Et le combat, c'est pour établir la légitimité des urnes. Les autorités qui sont en place sont des autorités de facto.
Je vous jure, il n'y a aucun doute que le dernier mot reviendra au peuple malien. Et la vérité du peuple sera rétablie. La vérité des urnes sera rétablie.
Du côté de la majorité présidentielle, c'est la mobilisation pour les législatives et les adhésions des clubs de soutien.
Camarades, dites-vous que nous avons décidé de nous engager avec le Rassemblement pour le Mali BRPM. C'est pour donner une fois de plus un levier au président de la République. Ce levier, il va se traduire par une majorité, je dirais, plus que confortable à l'Assemblée nationale.
On se sent toujours renforcé parce qu'il s'agit là d'une bonne partie de la société civile qui est organisée en association, en club, en mouvement de soutien. Que ces jeunes patriotes décident de nous soutenir, je pense que c'est une force considérable.
Lors de la marche de samedi dernier, Soumaïla Cissé a fait savoir que le combat va se poursuivre.
Nous luttons pour que les libertés démocratiques soient une réalité dans ce pays. Nous luttons pour que les voix soient désormais respectées dans ce pays. Nous luttons pour qu'il n'y ait jamais plus de fraude dans les élections dans notre pays. Nous serons à vos côtés pour combattre l'injustice. Nous serons à vos côtés pour combattre l'impunité. Nous serons à votre côté pour que notre pays avance dans le sens de la démocratie. Nous allons continuer à donner des leçons de démocratie à l'ensemble de la sous-région. Nous allons montrer que les Maliens ne baissent pas les bras devant la fraude. Les Maliens ne baissent pas les bras devant le mensonge.
Ibeka a fixé les capes de son gouvernement alors que l'opposition veut rester toujours dans la rue. En tout cas, le ministre de l'administration territoriale s'attelle pour l'organisation des législatives dont le premier tour est prévu pour le 25 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Retour sur cette grande première en Afrique où des moustiques génétiquement modifiés mâles, stériles, sont lâchés dans l'ouest du Burkina Faso. C'est la première phase d'un projet porté par Target Malaria et financé par la fondation Bill et Melinda Gates à hauteur de 70 millions de dollars. L'objectif est de lutter contre le paludisme. Malgré toutes les garanties, les inquiétudes des populations demeurent. Suivant ce reportage du correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le gouvernement burkinabé, à travers l'ANB, Agence Nationale de Biosécurité, a donné l'autorisation pour procéder au lâcher des moustiques génétiquement modifiés, des mâles stériles, sur un site d'étude à Bama ou à Surkundigé, de petites localités proches de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Selon les responsables du projet, l'opération va consister à lâcher au total 10 000 moustiques dans la nature. Docteur Abdoulaye Diabaté, principal instigateur du projet Target Malaria.
Nous avons eu cette autorisation pour pouvoir lâcher au plus 10 000 moustiques mâles stériles. Quand est-ce que nous allons faire le lâcher? Cela dépend en fait de plusieurs facteurs. Et il faut en fait que les conditions météorologiques soient extrêmement bonnes pour que nous puissions procéder au lâcher. Ça va dépendre un peu aussi en fait du niveau de production de ces moustiques que nous avons à l'insectarium.
Target Malaria a donc pour objectif ultime de pouvoir développer un outil génétique innovant de lutte antivectorielle, mettre un terme au paludisme. Mais nous n'en sommes pas là et déjà des inquiétudes, des avis divergents des populations de Bobo-Dioulasso, la région concernée.
Si c'est pour chuter le taux de paludisme, en tout cas, voilà, moi je suis pour.
Si on corrige les risques, c'est parce que nous n'ayons pas des effets indésirables non maîtrisables.
À Target Malaria, on rassure, il n'y a aucun risque. Docteur Abdoulaye Diabaté.
Ce sont les mâles que nous lâchons. Et les mâles de moustiques, déjà dans un premier temps, ne piquent pas. Donc ça veut dire en fait qu'ils ne peuvent transmettre aucune maladie. Nous avons quand même les garanties nécessaires par rapport à ces questions-là. Je veux rassurer tout le monde ici que les questions de sécurité sont au cœur du développement en fait de cette technologie au sein de Target Malaria. Et on ne s'amuse vraiment pas du tout avec cette question. C'est extrêmement important.
Les communautés locales ont été impliquées dans le projet Target Malaria. Et elles acceptent ces lâchers de moustiques. Docteur Léa Paré est responsable de l'engagement avec les parties prenantes pour Target Malaria.
Nous avons obtenu l'acceptation de ces communautés pour notre travail sur les lâchers de moustiques stériles mâles génétiquement modifiés.
C'est le même son de cloche du côté du gouvernement burkinabé à travers son porte-parole, Rémi Dandjino.
Ce gouvernement a adopté il y a quelques mois de cela un décret qui fait que les populations participent à tout ce qui est le développement de la biotechnologie, bioéthique dans nos régions.
Le paludisme a fait au Burkina 4000 décès, dont 3000 chez les enfants de moins de 5 ans en 2016, selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Il demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Direction la Guinée à présent, où les poubelles de Conakry peuvent être une véritable mine d'or pour ceux qui ont choisi d'y fouiller à la recherche d'objets qui seront ensuite transformés. C'est le cas d'une jeune fille qui a réussi à ouvrir une galerie de meubles obtenus à partir d'objets de récupération. Notre correspondant en Guinée l'a rencontré et voici donc le reportage de Zakaria Camara.
Au milieu des ordures, Aïcha Traoré n'a Dieu que pour les pneus usés. Cette jeune fille diplômée en journalisme fréquente régulièrement les dépotoirs de la capitale à la recherche d'objets qui lui servent de matière première.
La première phase de la collecte de pneus, c'est dans les décharges que je prends généralement. Ici, quand j'arrive, j'essaie de détecter les pneus afin de les sélectionner et voir. Quels sont les pneus que moi je peux utiliser dans ma confection des pneus pour ces tables, dans mon recyclage?
Si ces pneus peuvent se retrouver dans les salons, les habitants proches des tas d'ordures comme Mohamed se réjouissent de ne plus être victimes des fumées des pneus brûlés par des enfants.
Nous-mêmes, nous savons que réellement les pneus ne sont pas bons. En les brûlant, c'est pas bon pour la nature. Ça rend malade la population et ça crée aussi certains problèmes.
Aïcha Traoré quitte le dépotoir avec quelques pneus, direction son atelier. Les pneus sont ensuite lavés et peints avant la prochaine étape.
L'étape du lavage des pneus est primordiale puisqu'on ne peut pas faire des coupes, on ne peut pas faire du recyclage sans laver les pneus. Il faut qu'au préalable, tout soit bien propre, bien désinfecté et prêt pour le recyclage.
Pour le recyclage, Aïcha utilise du bois qu'elle découpe à l'aide d'une scie. Ensuite, le reste est assemblé pour donner des poufs de plusieurs modèles. Un résultat qui satisfait la jeune décoratrice après un début difficile.
Tout début est très difficile puisque d'abord, c'était très compliqué pour les gens d'imaginer un pneu sale qui vient d'une décharge ou qui vient de un garagiste. C'était pas facile pour eux d'imaginer ça dans leur maison. Donc, il fallait d'abord sensibiliser, leur faire comprendre qu'il y avait d'abord l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect décoratif.
La jeune créatrice a fabriqué plusieurs dizaines de poufs et livré de nombreuses commandes. Les clients semblent satisfaits. Fanta Diaby est chef d'entreprise.
J'ai vu les produits sur Internet, ils étaient super bien jolis. J'ai bien aimé. Et vu que je comptais aménager un coin pour jeune entrepreneur, donc j'ai voulu vraiment mettre lumière sur des produits locaux. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec elle, j'ai passé la commande et ça s'est super bien passé. J'ai assez de poufs partout dans la maison, c'est confortable. J'en peux l'utiliser pour s'asseoir ou même mettre des objets dedans. C'est bien apprécié par tout ce qui passe dans la maison.
Aïcha expose ses meubles dans sa galerie à Conakry. Elle a décoré des bureaux de plusieurs entreprises dans la capitale. Zakaria Camara, Conakry, VO Afrique.
C'est
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. À la console, il y avait Daryl Smith. Présentation Abdourahmane Ka. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.